compte. Tous les jours, 11h midi sur leur FM.
Allez, bienvenue si vous nous rejoignez. Salut Gaëtan.
Bonjour Jérôme.
Les sujets qui font l'actualité aujourd'hui, on va parler de Jacques Toubon.
Qui dénonce l'entrée de la France dans l'ère des suspects.
On parlera d'un comeback en politique.
Jean-Marc Ayrault pourrait réintégrer le gouvernement en tant que ministre.
Et pour une majorité de Français, eh bien, le gouvernement n'est pas un gouvernement de gauche.
La politique de François Hollande et de Manuel Valls n'est pas de gauche pour 65% des Français.
Alors, on va vous poser une question sur laquelle vous allez pouvoir réagir au standard 03 82 21 04 04 et puis également sur les réseaux sociaux. Selon vous, l'état d'urgence est-elle une perte de liberté? C'est vrai que c'est ce qu'on entend de la bouche de certains politiques et puis certains d'entre vous également nous ont déjà fait part de leur mécontentement face à ce procédé, cet état d'urgence. Vous allez pouvoir nous en parler. La page Facebook officielle Leur FM et puis également au standard 03 82 21 04 04. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, l'état d'urgence est une perte de liberté? On vous attend et on écoute Christine and the Queen pour commencer. Voici Paradis perdu sur Leur FM.
Pour ou contre? Tous les jours, 11h midi sur Leur FM.
En ce jeudi matin, sur Leur FM, Françoise Grollet, conseillère régionale de Lorraine, est notre invitée. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et merci d'être là avec nous pour les 60 prochaines minutes. On va revenir sur les faits d'actualité. Et le premier, c'est Jacques Toubon qui dénonce l'entrée de la France dans l'ère des suspects.
Alors que le Conseil des ministres a validé hier le projet de loi prolongeant une nouvelle fois pour 3 mois l'état d'urgence, le défenseur des droits s'alarme du projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme. Il ne faudrait pas décider un tel abaissement de notre état de droit sans ouvrir un vrai débat. Les Français veulent-ils léguer à leurs enfants un état de droit inférieur à celui que la République a mis 200 ans à bâtir? On entre dans l'ère des suspects.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans cette phrase? C'est la première question que j'essaye et on peut comprendre à plusieurs niveaux ce qu'ils disent, ce monsieur. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette phrase, vous?
Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une inquiétude concernant la prolongation de cet état d'urgence. Alors, il y a deux niveaux. Florian Philippot, pour le Front National, s'est exprimé dès que la mesure avait été dénoncée, là, avait été décidée. Jacques Toubon rejoint en effet cette critique. Pourquoi prolonger un état qui devrait être exceptionnel? Qui va être touché? On va diluer finalement ces mesures en fichant et en surveillant des gens qui ne devraient pas l'être, donc priver de liberté finalement les Français et ceux qui ont un avis peut-être divergent de celui du gouvernement. Est-ce qu'on doit leur faire confiance sur ce plan-là? Je n'en suis pas sûre. Et en revanche, on n'a pas pris les mesures, donc les Français sont toujours en situation de danger. On n'a pas pris les mesures pendant les 3 mois de cet état d'urgence. On n'avait pas pris les mesures en janvier après les premiers attentats. Il existe déjà Vigipirate. À quoi sert Vigipirate si on doit prendre encore prolonger l'état d'urgence? Et qu'est-ce qu'on va faire encore après? Est-ce que dans 10 ans, on sera encore sous l'état d'urgence et sous Vigipirate, alors qu'on n'aura pas fait ce qu'il fallait? Donc le Front National propose des mesures qui sont simples, et tant qu'elles ne sont pas prises, tant qu'on ne prend pas le taureau par les cornes, eh bien la situation ne va pas s'améliorer concrètement.
On va revenir sur les mesures que propose le Front National. Oui. D'abord, est-ce que vous avez l'impression de faire tomber la République et de revenir à la monarchie avec un état d'urgence? Parce que clairement, c'est ce qui... Enfin, moi, c'est ce que je comprends. Hein. On revient dans la fin des années...
200 ans auparavant.
Ben voilà, tu calcules...
Ah oui.
On y est. Hein.
Ah oui,
c'est, voilà, il nous fait clairement comprendre que c'est la chute de la République et le retour à la monarchie. Il va pas un peu loin quand même?
Ce qui est surtout clair, c'est que actuellement, la République n'est pas défendue, les lois de la République ne sont pas, appliquées de façon normale en France. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans une République? Est-ce qu'on est vraiment dans une démocratie qui fonctionne bien? Je ne le crois pas. Quand chacun doit finalement se défendre, non seulement sur le sujet du terrorisme, mais sur beaucoup de sujets, chacun doit défendre ses propres intérêts. On voit bien les tensions sociales qu'il y a aujourd'hui. On voit que l'État se délite, le service public est complètement abaissé. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'aujourd'hui qu'on est dans un état de droit normal, où on peut s'exprimer, où on peut vivre librement, tranquillement? Je n'en suis pas du tout sûre.
Vous estimez qu'on ne peut pas être totalement libre aujourd'hui en France?
Libre de s'exprimer, non. Et puis surtout, je crois que nos libertés essentielles, c'est quand même la liberté d'aller et venir dans notre pays, c'est d'être protégé contre l'insécurité, de pouvoir créer des emplois. On voit qu'aujourd'hui, les entreprises sont complètement asphyxiées et assommées par les impôts, les normes, les taxes, etc. Et qu'on ne peut pas actuellement, pour beaucoup de Français, avoir une vie décente et normale. Alors il y a évidemment des gens qui ont des situations plus favorables et qui auront tendance à ne pas observer le développement de la des difficultés, de voire de la misère pour de plus en plus de Français. Le chômage est un poids absolument accablant pour notre pays. Peut-être sur les mesures ce qui concerne l'état d'urgence, la lutte contre le terrorisme.
On va revenir justement dessus avec vos arguments. 11h08, on va vous rappeler cette question du jour.
Selon vous, l'état d'urgence est-elle une perte de liberté?
Françoise Grenet, notre invitée jusqu'à midi. On va reprendre cette discussion après avoir écouté Corentin Grévaux avec Ne me dis pas non, l'inforoute et les offres d'emploi.
Pour ou contre? Tous les jours, 11h30 sur l'Heure FM.
Il est 11h16 sur l'Heure FM. Françoise Grenet, conseillère régionale de Lorraine, est notre invitée jusqu'à midi. Alors, on parlait ensemble de cet état d'urgence. Qu'est-ce qui aurait eu de différent si Marine Le Pen avait été au pouvoir au niveau de cet état d'urgence? Vous dites qu'on n'en serait pas là actuellement.
Oui, sur la lutte contre le terrorisme, on ne prend pas les moyens, disons, d'éradiquer le terrorisme chez nous. Après, de toute façon, déjà être allé mettre le feu dans différents pays du Moyen-Orient, hein. La France a fait du suivisme, n'a eu aucune politique étrangère digne de ce nom et indépendante, et maintenant on en paye les conséquences.
Du moins jusqu'à Sarkozy, parce que Chirac n'avait pas voulu aller en Irak, par exemple.
Depuis Sarkozy, oui. C'est évident qu'on fait une politique de pire en pire. Et après, on ne faut pas s'étonner de voir les personnes impactées par cette politique venir se réfugier chez nous, alors qu'on est allé de la Libye à la Syrie et d'autres porter le feu et soutenir des gens qui ne le méritaient pas. Qu'est-ce que nous demandons? Déjà le rétablissement des frontières nationales pour qu'on puisse contrôler strictement qui rentre et qui ne rentre pas chez nous, c'est-à-dire donc la fin du système Schengen de libre circulation au niveau européen.
C'est vrai que ça fonctionne dans le principe sur les attentats du 13 novembre. Les attentats du 13 novembre, c'était des Belges qui sont venus sur notre territoire, donc peut-être que les frontières auraient fait quelque chose, je sais pas, et je pense que finalement on le saura peut-être jamais.
Des pseudo-réfugiés qui venaient de Syrie, oui.
Oui, aussi. C'est vrai que ça a été prouvé également. Mais par exemple, sur les frères Kouachi qui vivaient en France,
frontières
ou pas, ça aurait été la même chose.
Voilà, une fois qu'on a le loué dans la bergerie, je veux dire, il ne suffit pas.
Enfin, ils étaient français.
Il ne suffit pas, tout à fait. Il ne suffit pas de faire des frontières étanches une fois que le problème est chez nous. Mais il y a deux façons, disons, de se protéger contre le terrorisme. Et d'ailleurs, je vais y venir. Il y a les frontières, bien sûr, qui sont aujourd'hui de véritables passoires au niveau français comme européen. Il y a des mesures très clairement contre le terrorisme qui est déjà chez nous. L'interdiction des mosquées radicales, qu'est-ce qu'on a fait depuis les attentats?
C'est en cours, hein, ça.
Le renvoi, oui, c'est en cours, mais c'est bien long. Et puis, on aurait peut-être dû s'en rendre compte qu'il y avait un problème urgent avant que ça nous explose à la figure, dans le sens strict du terme. Le renvoi des imams radicaux, s'ils sont étrangers.
Ça aussi, c'est en cours?
Et ben voilà, mais c'était ça la priorité. Avant de suspecter, de ficher tous les Français qui vont être sous la loupe, il fallait s'attaquer aux personnes réellement susceptibles de causer un danger.
Aujourd'hui, 5 personnes qui ont été arrêtées à Lyon, qui tentaient de partir en Syrie, elles ont été arrêtées avant de quitter le territoire. Ces personnes-là vivaient sur notre territoire, elles sont françaises. On fait quoi de ces personnes-là?
Eh bien, justement, on empêche les imams radicaux de faire de nouveaux émules.
Oui, déjà. Mais sans
et
parler
puis,
de ça, c'est...
on peut lutter strictement vis-à-vis de ceux qui sont en France et des Français. On peut lutter contre le communautarisme qui se répand dans notre société, qui est une véritable gangrène, avec la complicité ou le silence bienveillant de ceux qui profitent après sur le plan électoral d'une certaine clientèle. Aujourd'hui, en France, il y a des dérives communautaristes qui sont parfois même subventionnées. On le voit bien dans nos collectivités. Et quand on laisse faire cette politique, au lieu de donner à tout le monde envie d'être français et de respecter nos lois, nos règles, eh bien non, on laisse chacun se replier sur sa communauté, donc on crée des tensions, et justement, c'est là que les politiques prennent une lourde responsabilité, ça c'est de leur ressort.
Cette communauté que vous appelez, elle existe, mais elle s'appelle 2.0, c'est Internet, et le gouvernement ne peut rien faire là-dessus. La plupart de ces terroristes qui se radicalisent et qui embauchent, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, des nouvelles personnes, et surtout des jeunes en général, qui se font endoctriner, ça se passe sur Internet.
Oui, il y a Internet, il y a les prisons.
Aussi les prisons,
exactement. Il y a les mosquées radicales et il y a aussi une tendance générale en France à ne pas, enfin chez les politiques, à laisser les gens s'enfermer dans leur communauté qui ne sont pas forcément radicales, mais des gens qui ont une origine étrangère et à qui on ne donne pas envie d'être français, de respecter la France, de partager nos valeurs, nos lois. On a tendance à subventionner, par exemple, à Metz, tout ça, tout clairement, hein, et au niveau de la région Lorraine aussi, des associations qui regroupent des gens par communauté, par origine, et sans leur comment dire, faire qu'il y ait les mêmes règles, la même procédure pour tous. Je me souviens de subventions de la région Lorraine, par exemple, feu la région Lorraine, pour aider des femmes d'origine étrangère. Donc c'était à Thionville ou Yutz, je ne sais plus où, à Famec. Dans le coin, une association sportive. Alors il était clairement dit dans le rapport qu'on donnait une subvention à cette association sportive pour créer des activités pour les femmes à des conditions, donc des horaires, etc., qui respectent leurs particularités culturelles. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la région Lorraine finance une association sportive à destination de femmes d'origine étrangère pour qu'elles fassent, qu'elles aillent à la piscine à leurs horaires à elles et qu'elles ne risquent pas de rencontrer des hommes. Est-ce qu'on va dans le sens de l'intégration? Est-ce qu'on lutte contre le communautarisme avec ce genre de subventions? Je pourrais vous en sortir. Vous ne l'avez pas entendu parce que le Front National l'a dénoncé à l'époque en disant que c'était une mesure. Quel signal on donne à ces femmes en tolérant ce genre de comportement? Qu'elles peuvent avoir, qu'on peut avoir en France des petites communautés qui sont les unes à côté des autres. On leur donne pas forcément l'envie l'émancipation, pardon, qu'elles souhaitent elles-mêmes peut-être. Et des mesures comme ça, il y en a dans toutes les collectivités. Il faudrait qu'on en parle plus.
Je sais pas. J'ai pas vu passer l'information. Je peux pas vous répondre parce que j'ai pas vu passer cette information. Mais bon, ça peut se trouver facilement sur le net, je pense, ou dans des anciens articles de presse. On va en tout cas continuer.
Si la presse en parlait, oui.
Ah, ça, je sais pas. Je vois même pas à quelle période ça remonte, vous voyez.
C'était il y a quelques mois.
Oui, c'est vrai que c'est passé. En tout cas, ça s'est vraiment passé.
C'est devenu très, très courant. Et c'est pour ça que je vous dis qu'à Metz, on pratique de la même façon en subventionnant des associations qui incitent les gens à rester entre eux. À l'école, on n'incite pas forcément les jeunes à avoir à l'amour de la France et a souhaité devenir français. On insiste plus sur ceux qui ne savent pas. Non, devenir français de cœur. Bien sûr, la plupart le sont déjà. Mais on n'incite pas non plus à aller vers une adhésion franche et spontanée à notre communauté nationale.
On va repartir sur le gouvernement dans quelques secondes. Jean-Marc Ayrault qui pourrait intégrer le gouvernement en tant que ministre et pas des moindres. Il irait au Quai d'Orsay, en tout cas c'est les rumeurs. On en parle après le titre de The Weeknd qu'on écoute ensemble. Voici In The Night dans le Pour ou Contre, il est 11h24.
Pour ou Contre? Tous les jours, 11h30 sur l'Heure FM.
Il est 11h27 sur l'Heure FM en ce jeudi matin. Françoise Grelet, conseillère régionale de Lorraine, est notre invitée. Alors, on pourrait même plus dire de Lorraine, en fait, hein, maintenant. Ce serait de la grande région, on ne sait pas trop
bien
comment.
Bien sûr, bien sûr. Ah, je n'ai pas réagi sur le coup.
Mais... Oui, c'est moi, en fait. Je suis en train de me dire, ça fait trois fois que...
conseiller municipal de Metz. Et voilà, et on a du mal à s'y faire.
Hein. Ou conseiller municipal de notre région. Ouais. Effectivement. Alors, on va revenir sur le gouvernement qui table sur un remaniement. En tout cas, c'est ce que les bruits de couloir nous laissent penser. Un autre bruit de couloir, c'est celui du retour de Jean-Marc Ayrault.
L'ancien Premier ministre pourrait prendre la tête d'un grand ministère, peut-être le Quai d'Orsay lors d'un prochain remaniement. Une autre entrée est aussi attendue dans les rangs du gouvernement, celle de Nicolas Hulot qui pourrait pousser vers la sortie Ségolène Royal.
Première information, donc l'ancien Premier ministre qui reviendra au Quai d'Orsay.
Ça, on fait du neuf avec le vieux, hein. C'est quand même incroyable.
Là, je ne peux pas vous dire le contraire. Hein.
Oui, non, c'est quand même consternant parce que ça montre l'état de délabrement des socialistes déjà, hein, qui ont pris une énorme déculottée au mois de décembre et qui cherchent désespérément, qui rament pour essayer de retrouver un peu de crédit avant l'élection présidentielle. Bon, là, on se débarrasse de tous ceux qui gênent. Ségolène Royal l'ouvrait peut-être un peu trop, hein, un peu trop d'indépendance.
Comme Christiane Taubira, par exemple. Quoique, oui, elle, ça vient d'elle, apparemment, hein, cette démission.
Tout à fait. Non, mais il y en a eu d'autres qui ont, et notamment au ministère de l'écologie, hein, en général, ils se rendent bien compte au bout d'un moment qu'il n'y a aucune sincérité de la part du Parti Socialiste, qui a fait la grand-messe de la COP21, qui a coûté très cher, qui a dépensé beaucoup de CO2, de diverses façons, tout ça pour un accord dont tout le monde sait qu'il ne va pas révolutionner ni améliorer le climat de la planète.
On va essayer d'être un peu positif. Disons que ça peut fonctionner. Allez.
Ah, les bonnes intentions, oui, c'est toujours ça, mais c'est très limité. Et quand on voit l'énergie qui a été dépensée pour ça, le seul avantage, peut-être, c'est d'avoir mis l'attention sur le contrôle des frontières. Parce que pour les grands de ce monde, ça, on était capable de le faire. Maintenant, Jean-Marc Ayrault, encore en revenant. Déjà, Laurent Fabius, on ne peut pas dire que c'était quand même un signal fort, hein, en matière de
mais
de renouvellement de la vie politique.
Est-ce qu'il n'avait pas la casquette pour le Quai d'Orsay? Parce que finalement, il a quand même un bon bilan. Laurent Fabius, je pense qu'il est à peu près apprécié des Français. Je n'ai pas de sondage sur Laurent Fabius qui me vient en tête. Mais est-ce que ce n'est pas des ministres comme Le Drian, des ministres qui ont le costard pour, on va dire ça comme ça?
Oui, il y a une question de stature, d'accord, mais il y a une question de bilan aussi. Est-ce qu'il a donné satisfaction?
Ah bah je pense que non, sinon il sera encore à Matignon.
Bon.
Ah bah clairement, non mais il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Voilà. S'il avait un bon bilan, il sera encore à Matignon.
Tout ça veut dire que le gouvernement est en train de tout verrouiller. D'ailleurs, on voit dans la suite du sondage que même Manuel Valls, les Français aimeraient bien aussi qu'il soit remplacé.
41%.
Voilà, c'est quand même énorme pour un Premier ministre, surtout dans une situation de tension telle que nous connaissons. Il n'y a aucune unanimité des Français aujourd'hui. Et il demande d'abord le renouvellement de la vie politique. On en a soupé de la droite, de la gauche, qui à chaque fois se présente comme les perdreaux de l'année. Jean-Marc Ayrault, excusez-moi, c'est quand même assez léger comme entendre de ce qu'attendent les Français. En décembre, les Français se sont exprimés. Il y a eu une élection où le Front National arrivait en tête. On est quand même le premier parti de France. Et voilà que les autres partis se sont coalisés dans un seul but, c'était de garder le pouvoir dans les régions.
Qu'est-ce qui a manqué pour pas y arriver ?
Eh bien, c'est que ce soit un jeu à armes égales. Quand on demande, ça n'a pas été le cas dans notre grande région, Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, hein, je tiens à ce qu'on le dise intégralement et pas à Cal ou Grand Est ou n'importe quoi, on va gaspiller de l'argent et de l'énergie pour faire un sondage susciter un nouveau nom pour cette grande région.
Pour une fois qu'on mêle les citoyens. C'est peut-être une bonne chose.
Je crois qu'ils ont déjà leur idée en tête. Non, mais je veux dire, c'est encore une usine à gaz. Vous avez vu la complexité du dispositif. Tout ça pour accoucher d'un nom. Nous souhaitons, et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ça va être peut-être la surprise, hein, beaucoup de gens qui le souhaitent, qu'on garde les noms de nos anciennes régions qui reviendront, et nous le souhaitons. Parce que cette immense région avec 167 élus, vous imaginez comment on peut gérer une collectivité soi-disant locale avec 167 élus. Je le vois depuis le mois de janvier.
Qu'est-ce qui vous a manqué au second tour, vu que justement le socialiste s'est maintenu?
Ah ben je vous ai dit, c'est de pouvoir
se
présenter devant
les
électeurs à armes égales. Il y avait 5 ou 6 partis qui ont fait une entente, hein, soyons clairs, pour garder le monopole sur les régions. Et dans notre région... qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux tours? Il y a eu une campagne, on a fait peur aux gens, parce qu'ils avaient aussi peur de perdre leur place, mais on a fait peur aux gens en racontant n'importe quoi, que nous allions mettre des barbelés autour des frontières, donc que les frontaliers allaient perdre leur travail, alors que nous, ce que nous voulons, c'est protéger nos frontières, c'est contrôler nos frontières, et évidemment, ne pas nuire, et au contraire, garder une fluidité pour ceux qui vont chercher du travail... ailleurs, pour ceux qui commercent, pour le commerce extérieur qui est une force de notre région.
Je me suis toujours posé cette question, comment contrôler aux frontières sans encore rendre cauchemardesque le trajet de nos frontaliers, par exemple?
Il a été cauchemardesque parce qu'on n'a plus, on n'a pas gardé, on a démantelé tout ce qui permet un contrôle fluide. On n'a plus assez de douaniers, on n'a plus les postes qui nous perdent. Donc là, c'est sûr qu'on a fait, tout ce qu'il ne fallait pas faire. Ça a été traumatisant, je pense, pour les gens. Si déjà on avait des TER qui fonctionnent, hein, qui fonctionnent bien pour permettre aux gens aussi de prendre les transports en commun.
Il y en a plus depuis janvier, je crois.
Si la 31, il va y avoir un cadencement qui va un peu améliorer la situation. Mais
il faut que le Luxembourg joue le jeu aussi.
Tout à fait. Alors là, c'est à double sens. Le Luxembourg est largement bénéficiaire. Et je vous rappelle qu'avec le fait que donc les frontaliers payent leurs impôts à la source au Luxembourg, il y a une manne financière qui est perdue pour notre région, puisque les impôts locaux, ça se transforme en dotation aux collectivités locales au Luxembourg, qui sont opulentes.
Oui, mais vu qu'ils travaillent là-bas, c'est normal qu'ils cotisent là-bas. Il crée de la richesse au Luxembourg.
Oui, il serait normal aussi que le Luxembourg rétrocède une partie à la France, puisque nous leur envoyons... Ça se fait avec la Suisse. Oui, mais c'est une manne pour les collectivités sûrement. Locales. Eh bien, pourquoi on ne le ferait pas avec le Luxembourg? Pourquoi les politiques ne sont pas plus offensifs là-dessus? On a aussi...
Pourquoi le Luxembourg reverserait une partie de leurs impôts à la France? Enfin, du moins à la région.
Mais parce qu'il le confisque à la source, donc c'est impossible. Donc les frontaliers sont doublement taxés, puisqu'ils sont taxés là-bas, et ils sont taxés ici par leurs impôts locaux, qui sont beaucoup trop élevés.
Oui, mais ils vivent ici, c'est normal qu'ils payent leurs impôts locaux. Enfin, je sais pas, c'est...
Ah, mais justement, la part de leur salaire qui correspond aux impôts, heureusement qu'ils payent des impôts locaux ici, c'est normal, mais le Luxembourg devrait rétrocéder une part de cet impôt qui est pris à la source, là-bas.
Pour soulager les frontaliers de leurs taxes.
C'est une question de justice. Pour soulager les collectivités qui finalement fournissent beaucoup de services à ces personnes. Bon, ça, on s'écarte du sujet. Ce gouvernement, de toute façon, va mener une politique à la petite semaine, va continuer de prendre des mesures contre-productives, mal comprises dans un sens ou dans l'autre, et surtout inefficaces pendant un an parce qu'ils sont paralysés par la crainte de perdre à nouveau cette élection présidentielle.
Nicolas Hulot, au gouvernement, quelqu'un qui est assez apolitique, est-ce qu'on peut dire qu'il est apolitique? Oui, quand même.
Un petit peu.
Il s'est positionné, certes, mais finalement, c'est quelqu'un qui connaît son...
C'est une sorte d'autorité morale, voilà.
Voilà, sur le sujet. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et il connaît son sujet.
Oui, peut-être plus qu'un certain nombre de ministres, clairement. Maintenant, je crois que lui n'a rien à gagner. Beaucoup de ministres de l'écologie se sont brûlés les ailes, hein, en voyant qu'il n'y avait aucune volonté politique d'appliquer une politique réellement en faveur de notre environnement. Lui, je pense, n'a pas tellement intérêt à aller s'acoquiner avec un gouvernement qui ne fera...
Alors,
pas...
Je ne pense pas qu'il va signer sans condition. Vous croyez qu'il serait grave de signer sans condition?
Bon, l'avenir nous le dira bientôt.
Allez, on va prendre ça comme ça. 68% des Français, en tout cas, qui sont pour un remaniement. On va continuer de parler des sujets qui font l'actualité. Et on va revenir sur la politique de François Hollande et Manuel Valls, qui n'est pas de gauche pour 65% des Français.
Pour ou contre? Tous les jours, 11h midi sur leur FM.
Il est 11h41 sur leur FM, toujours au cœur du pour ou contre. On en arrive sur le dernier quart d'heure, les 10 dernières minutes de l'émission. Et on va parler de la politique de François Hollande et Manuel Valls, qui n'est pas de gauche pour 65% des Français.
À la question, diriez-vous que François Hollande et Manuel Valls mènent une politique de gauche? Seuls 6% des sondés ont répondu oui, tout à fait. Sur les 34% des Français à répondre oui, la politique fiscale, les impôts, les taxes, ainsi que la politique conduite pour lutter contre le terrorisme sont par contre considérés de droite par respectivement 52% et 54% des Français.
Alors, est-ce que vous pensez que le gouvernement fait une politique de gauche?
Écoutez, ça me fait rire qu'on pose cette question. Parce que on sent quand même que le désarroi est grand, hein, parmi les électeurs de François Hollande, qui ont pour beaucoup voté par défaut parce qu'ils ne voulaient plus Nicolas Sarkozy, soyons clairs. Il n'a pas été choisi, François Hollande. Il a été élu par défaut. Et maintenant, le peuple de gauche se dit, oui, la politique fiscale, je ne sais pas comment les gens peuvent considérer que la politique fiscale menée par François Hollande, donc impôts et taxes, serait de droite, parce qu'on est quand même bombardé de taxes et d'impôts, mais ça, c'est une constante de la droite et de la gauche. Pourquoi attribuer une politique fiscale? Normalement, la droite devrait être plus libérale, donc ouvrir, laisser les entreprises fonctionner et créer les emplois, parce que finalement, c'est aux entreprises de créer les emplois. Mais je crois qu'il y a une constante d'un président à l'autre. Hollande se révèle ne pas être de gauche. Dans beaucoup de sujets, c'est le cas, dans d'autres non. Mais il y a une continuité. Aujourd'hui, les gens rejettent plutôt cette différence artificielle entre droite et gauche parce qu'elle ne correspond plus à grand-chose. On l'a vu d'ailleurs dans les régions, justement avec ce deuxième tour des élections régionales, où dans toutes les régions de France, le Parti Socialiste a appelé à soutenir les candidats de droite quand c'était le cas, et l'inverse dans les régions de gauche, qui ont été gagnées par la gauche. Donc...
Parce que Sarkozy avait été clair, hein. On propose pas de choisir. Hein.
Au mois de décembre.
Oui, sur les régionales.
Oui, mais enfin, de fait, le gouvernement a...
Ah oui, vous parlez de la gauche, parce que moi je parlais de la droite. La droite l'a bien dit clairement. Par exemple, Le Drian qui était en tête, même en je crois Bretagne. Qu'il l'a
dit.
Propos
de Sarkozy, qui en effet a toujours dit nini, et les responsables locaux, qui la plupart du temps ont appelé à soutenir... la gauche, ou bien ne mène pas vraiment une opposition. Quoi qu'il en soit, au niveau des mesures prises, Sarkozy a été un président qui a créé un nombre d'impôts et de taxes nouvelles. François Hollande prétendait ne plus augmenter les impôts, ne plus augmenter les taxes, mais dans les faits, on trouve en permanence des nouvelles dispositions. Ça peut être très subtil, hein, comme le maire de Metz, Dominique Gros, qui dit qu'il n'augmente pas les impôts, qui dit qu'il n'augmente pas le taux de l'imposition. Mais en réalité, sans augmenter le taux, il y a multiples façons d'augmenter les impôts de fait. Et chacun voit sur sa feuille d'impôt annuelle que les impôts ne cessent d'augmenter à Metz. Donc il y a un peu d'incohérence. C'est vrai que l'actualité aujourd'hui à Metz, c'est la fermeture d'une maison de retraite du CCAS. Alors des socialistes qui se drapent toujours dans la défense des plus faibles et des plus touchés donc par la crise sociale actuelle et qui ferment une maison de retraite parce qu'elle n'est pas assez n'atteint pas un équilibre financier minimum. Moi j'étais au conseil d'administration du CCAS avant-hier soir. J'ai été scandalisée de voir quel discours on nous tenait. Ça coûte trop cher finalement une maison de retraite du CCAS qui justement s'adresse non pas à ceux qui ont les moyens de se payer une résidence senior, qui coûte déjà très cher pour beaucoup de résidents, mais une maison de retraite du CCAS qui devrait être justement ouverte à tous ceux qui ont commencé à travailler très tôt, souvent dès 14 ans, qui ont élevé des enfants, qui ont participé à la vie de la société, et qui maintenant vont se retrouver dans des logements finalement qui ne seront plus avec les services d'une maison de retraite, donc dans la solitude.
Et qu'est-ce qu'on vous a répondu ?
C'est une régression totale.
Qu'est-ce qu'on vous a répondu là-bas ?
Ah bah qu'il fallait être réaliste, qu'on n'avait plus d'argent. Qu'on avait moins d'argent, évidemment les dotations baissent, mais ça il fallait peut-être y réfléchir avant et faire des choix, et les choix réels n'ont pas été faits. Et donc maintenant, qui est-ce qui va payer ? Ben, c'est les plus faibles de notre société, c'est ceux qui, par une question de justice et d'équité, à quoi sert-il d'invoquer la liberté, l'égalité, la fraternité si on n'a pas la fraternité essentielle et la solidarité intergénérationnelle, donc de s'adresser aux plus âgés, qui sont finalement ceux qui sont maintenant vulnérables. Eh bien, si un socialiste ne mène pas une politique comme ça, mais en revanche fait une politique de toujours plus pour l'événementiel, pour une certaine partie de la culture, hein, qui n'est pas toute la culture, mais on crée beaucoup d'événements à Metz, ça finit par coûter très cher, alors qu'on ne fait pas le béaba.
Qu'est-ce que ça va être ? C'est quoi le sort qui leur est réservé aux habitants de cette maison de retraite actuellement ?
Eh bien, tous les services qui étaient liés au fait que ce soit une résidence senior, donc du CCAS, vont être enlevés. On avait déjà gratté dans toutes les maisons de retraite du CCAS sur la présence de nuit, qui était normalement dans le contrat. Hein. Maintenant, donc, on va leur supprimer l'hôtesse qui était là en permanence. 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et puis les services comme le portage des repas, la laverie, le fait de recevoir la famille. Ce qui différencie une maison de retraite d'un logement social basique.
On va continuer. Est-ce qu'on a le temps d'écouter David Guetta ?
Oui, Gaëtan, très bien. 4 minutes après.
Eh ben parfait, David Guetta ici qui arrive tout de suite. Voici Bang My Head et puis le dernier sujet, on va parler de Schengen qui coûterait 10 milliards d'euros à la France. Si on lira vos commentaires sur l'état d'urgence sur Facebook.
Pour ou contre ? Tous les jours, 11h midi sur leur FM.
Il est 11h51, c'est la dernière partie de notre pour ou contre avec notre invitée Françoise Grelet, qui est donc conseillère municipale à Metz et conseillère régionale de la région Alsace-Champagne-Ardennes-Lorraine. Et je n'avais pas oublié. Et si ? Non, c'est bon, on est dedans.
On a les trois.
On a les trois, tout va bien. On va parler de sortir de Schengen. En tout cas, pour France Stratégie, ça nous coûterait 10 milliards d'euros.
France Stratégie, un organisme de réflexion rattaché au Premier ministre, s'est posé la question et c'est un demi-point de PIB qui pourrait être perdu pour la France à l'horizon de 10 ans, soit une dizaine de milliards d'euros.
Alors, Schengen, c'est un combat pour vous. En tout cas, au Front National.
Oui, mais ce que je constate, c'est que là, on fait les gros titres sur un organisme qui est complètement dépendant du Premier ministre. C'est comme si Manuel Valls disait ça. Quelle est son objectivité, quelle est sa crédibilité pour dire ça? On a fait une étude, donc ils ont fait une étude selon laquelle la sortie de Schengen nous coûterait un demi-point de PIB, ce qui est énorme. Mais est-ce qu'on a fait une étude sur ce que ça rapporterait, sur les emplois que ça créerait, sur la sécurité retrouvée, sur la vitalité de nos entreprises? Alors, on va toujours chercher notre salut, hein, les politiques aujourd'hui vont chercher notre salut, donc dans plus de gigantisme, dans plus d'ultralibéralisme et d'ouverture effrénée des frontières. Moi, je crois qu'il faut déjà chercher les ressources chez nous, dans notre capacité à innover, à prendre des parts de marché aussi à l'étranger, mais déjà à recréer, donc avoir une réelle politique de soutien à nos entreprises, de réindustrialisation, avant d'aller de protéger un système donc comme Schengen qui fait des frontières passoires, qui détruit des emplois chez nous. Est-ce que ceux qui prennent ce genre de assument ce genre de propos, voilà, la sortie de Schengen nous coûterait très cher, sont fiers de leur bilan. Est-ce qu'actuellement on peut dire que la situation est tellement bénéfique et tellement florissante pour la France qu'on doive rester dans le statu quo? Oui, on continue à se faire inonder de produits étrangers sans défendre nos entreprises. Non, il y a des choses à changer. Alors après, pour nous, pour le Front National, il faut être plus pédagogue et expliquer, rassurer, expliquer ce que nous voulons faire réellement. Mais je crois que ça n'est pas en continuant comme ça. Les dégâts, ils sont aujourd'hui, les pertes d'emploi, la casse de nos entreprises et de notre production, la perte d'indépendance de la France, elle est aujourd'hui.
Alors, pour rester sur le côté économique, le problème, c'est qu'il y a certains produits qu'on pourra pas fabriquer en France. Je pense à certaines choses de l'électronique, par exemple. Il y a des produits qu'il faut importer aussi également. Maintenant, comment on pourrait faire? Parce que finalement, c'est vrai, si on pouvait faire en sorte que nos PME et TPE puissent vendre plus facilement leurs produits, qui sont souvent parce que ça, c'est le coût du travail, parce que c'est la qualité, plus cher que ce qu'on achète à l'étranger. Comment on pourrait lutter contre ça? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Français vous répondront, et moi le premier, ça coûte cher de consommer français aujourd'hui.
Ah ben c'est clair, acheter un t-shirt français, c'est plus cher que d'acheter un t-shirt chinois. Mais c'est un cercle vicieux. Actuellement, on a des chômeurs aujourd'hui en France qui n'ont d'autres choix, ou des gens qui sont payés de façon misérable. Le SMIC ne permet pas aujourd'hui de vivre décemment, soyons clairs, pour ceux qui y sont. Après, il y a tous les emplois partiels et les gens qui sont au chômage. Aujourd'hui, on vend à des chômeurs des produits qui sont fabriqués par des esclaves en Chine. Il faut bien le dire, en Inde et dans tous les autres produits. Les produits qui sont importés en France sont souvent... réalisés, qui sont souvent produits dans des conditions indignes, sans parler des dégâts sur l'environnement. Hein. Il y a des conditions non seulement sociales, mais aussi environnementales, qui font qu'ouvrir nos frontières, c'est mauvais pour toute la planète. Et en même temps, on met nos entreprises dans une concurrence, donc pieds et poings liés face à une concurrence qui, elle, se permet tout. Même pour nos agriculteurs, qui actuellement poussent un coup de gueule, je ne sais combien tième depuis un an. Nos agriculteurs produisent plus cher parce que le coût de la main-d'œuvre est très cher en France, parce que les normes à respecter sont écrasantes en France, face à des concurrents qui viennent de loin ou de près, hein, des pays d'Europe du Sud notamment, qui eux ne s'embarrassent pas avec toutes ces contraintes et qui nous inondent. Et est-ce que l'environnement, bon, on parlait tout à l'heure de ce que pourrait faire Nicolas Hulot, moi je crois que c'est d'abord la sortie de Schengen, de l'espace Schengen, permettrait déjà de protéger nos productions. Est-ce que ça a un sens d'aller acheter des pommes dans des pays étrangers, des pays lointains, d'importer des produits aussi basiques que notre alimentation courante, de la viande? Est-ce qu'on n'est pas capable en Lorraine de produire de la viande correctement?
Si, mais le problème, c'est pas moindre coût, entre guillemets.
Et voilà. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas su défendre nos agriculteurs. Nous, évidemment, nous les soutenons. Non pas comme des gens qui vont quémander des subventions ou le maintien d'une PAC qui les rend dépendants de la politique européenne. Nous, Français, nous payons assez cher notre contribution à l'Union européenne. Nous sommes des contributeurs nets. Nous payons plus que l'Union européenne nous rapporte. Donc la PAC, ça n'est pas une aumône faite à nos agriculteurs. C'est un juste retour de l'argent que nous déversons sur cette Union européenne qui finalement complique et technocratise, si on peut dire, beaucoup de notre politique française.